Welcome to the Canadian Nutrition Society podcast, Nutrition Conversations, a podcast dedicated to exploring the latest research in nutrition and health in Canada. In each episode, we invite expert guests to share their insight and knowledge on a wide range of topics, from dietary patterns to sports nutrition, food insecurity, and food sustainability. Whether you're looking to improve your own health and wellness, or simply stay up to date on the latest developments in the field of nutrition, we hope you'll join us on this journey to better understand the role food plays in our lives. Please note that the views expressed by speakers in CNS podcasts are those of the speaker and not necessarily of CNS.
La modératrice de cet épisode est la directrice scientifique de la Société canadienne de nutrition, Mme Shirin Panahi, qui s'entretiendra avec la professeure Sophie Desroches dans l'épisode 8, saison 2 de Conversation en nutrition sur la désinformation en nutrition sur les réseaux sociaux.
Bonjour aux auditeurs de Conversation en nutrition. L'alimentation et la nutrition sont des sujets populaires dans les médias et sur les réseaux sociaux. L'omniprésence des médias sociaux a créé de nouvelles opportunités pour les experts qualifiés ou accrédités de la communauté scientifique de communiquer avec leurs clientes et le public. Mais elle a également créé des défis. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Dr. Sophie Desroches, professeure titulaire et diététiste à l'École de nutrition à l'Université Laval et chercheuse au Centre Nutrice de l'INAF. Ses travaux de recherche visent à identifier des stratégies de transfert de connaissances en nutrition et à favoriser leur implantation dans les pratiques cliniques des diététistes afin d'améliorer l'adhésion aux recommandations nutritionnelles. Les plus récents travaux de recherche effectués dans son équipe portent sur l'utilisation des médias sociaux comme stratégie de transfert de connaissances dans les domaines reliés aux habitudes de vie, incluant la nutrition. Elle enseigne également divers cours sur la pratique clinique des diététistes, les maladies chroniques et la nutrition, ainsi qu'un excellent cours sur la communication nutritionnelle à l'Université Laval, dans le cadre duquel j'ai eu le plaisir de présenter. Professeur Desroches aime le yoga, la marche, la lecture, découvrir de nouveaux restaurants, cuisiner et naviguer sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se dit sur les habitudes de vie. Avec cela, je vous souhaite, Sophie, la bienvenue à l'épisode 8, saison 2 de Conversation en nutrition.
Merci beaucoup, Shirin, pour l'introduction.
Et merci beaucoup pour votre présence. Ça semble que vous êtes très active dans votre vie. Je trouve que le sujet de désinformation en nutrition est très intéressant et bien sûr très pertinent de nos jours. Mais avant de plonger dans le sujet de la désinformation en nutrition, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Vous êtes une chercheuse accomplie avec une carrière très fascinante, mais comment avez-vous décidé de vous lancer dans ce domaine de recherche?
En fait, ça s'est produit graduellement, puis probablement par l'accumulation de différentes expériences que j'ai eues dans le travail, mais aussi au niveau de la recherche. J'ai pas nécessairement un parcours professionnel très linéaire, donc j'ai fait plusieurs choses dans le passé. Donc, pendant mes études graduées à la maîtrise, puis au doctorat en nutrition, j'ai travaillé sur des projets qui visaient à mieux comprendre comment différents patrons alimentaires ou types d'alimentation exerçaient leur effet sur la santé, disons, sur des paramètres biochimiques, le métabolisme des lipides, etc. Donc, je voulais comprendre mieux comme nutritionniste, quand on fait des recommandations, est-ce que c'est vraiment efficace, puis à quel niveau on observe là, les effets de ces différents patrons alimentaires-là. Je voulais aussi démystifier le laboratoire, donc ça a été fait là, pendant mes études graduées. Puis parallèlement à mes études, j'ai aussi travaillé comme diététiste clinicienne dans des milieux hospitaliers. J'ai aussi travaillé en santé publique et tout ça m'a permis de constater que même si j'avais vu dans mes études que la nutrition était vraiment efficace pour avoir un impact sur la santé, il y avait beaucoup de problématiques au niveau de l'adhésion aux recommandations nutritionnelles, autant aux recommandations nutritionnelles populationnelles que dans un contexte plus individuel, comme par exemple dans des rencontres patients-diététistes. Donc, je me suis intéressée à l'adhésion aux recommandations, puis ça m'a amenée à faire un post-doctorat dans le domaine du transfert de connaissances, où là, on a travaillé, entre autres, sur la prise de décision partagée, donc qui est une stratégie de transfert de connaissances où on implique davantage le patient dans les décisions qui concernent leur santé. Donc, en impliquant les gens davantage, ça permet d'avoir une meilleure adhésion aux recommandations parce qu'ils se sentent concernés davantage que si on donnait tout simplement des recommandations sans se préoccuper de leurs valeurs, leurs préférences et tout ça. Puis l'autre stratégie de transfert de connaissances qui m'a intéressée, c'est les médias sociaux, parce que j'y voyais un intérêt pour les nutritionnistes pour partager leurs connaissances, établir un contact avec la population, essayer de comprendre peut-être plus c'est quoi les barrières, les facteurs facilitant à l'adhésion, puisque dans les médias sociaux, ben, on peut communiquer avec les gens, donc c'est très interactif, en fait, comme type de stratégie de transfert de connaissances. Puis, en m'intéressant à ce domaine-là, ben, on a développé des projets de recherche en premier lieu sur les blogs en nutrition. Donc, c'était dans les années 2012-2013 environ. Donc, les blogs étaient très populaires. Et on a essayé de développer, en fait, des blogs qui étaient les plus optimaux possibles, donc qui répondaient aux besoins des gens qui consultaient ce type de ressources-là. Donc, on a interrogé des gens pour savoir, bon, quels étaient le contenu qu'ils préféraient dans les blogs, puis aussi quel genre d'informations, en fait, ils voulaient que les nutritionnistes là, partagent avec eux, puis même le ton, le type de langage, puis aussi au niveau visuel, qu'est-ce qu'ils préféraient voir dans les blogs, est-ce qu'ils voulaient voir des vidéos, par exemple, est-ce qu'ils voulaient, au niveau du contenu, plus de recettes, etc. Donc, on a essayé de construire un blog parfait pour aider, en fait, les nutritionnistes à développer leur propre blog. Puis, au fil du temps, on s'est rendu compte que, bon, les blogs étaient moins lus, étaient moins d'intérêt pour la population. Puis là, il y a eu d'autres plateformes socio-médiatiques. Alors, faire des études sur ce sujet-là, c'est un peu difficile parce que les médias sociaux, ce sont des cibles mouvantes. Donc, il y a toujours de nouveaux types de médias sociaux, de nouvelles plateformes. Et selon l'âge des gens, par exemple, ils vont préférer une plateforme versus une autre. Donc, ça pouvait être peut-être contre-productif d'essayer de créer la meilleure plateforme possible parce qu'il y en avait tellement, puis c'était un domaine qui bougeait beaucoup. Donc, suite à nos blogs, on s'est rendu compte que les lacunes dans les connaissances dans ce domaine-là, c'était vraiment d'aider les gens, en fait, à mieux naviguer à travers toutes ces plateformes où il y a une surabondance d'informations pour les aider, en fait, à rechercher ou en fait trouver de l'information qui serait pertinente pour eux puis qui pourraient appliquer dans leur vie dans le but ultime toujours d'améliorer leur adhésion aux recommandations nutritionnelles. Donc, c'est un peu ce long parcours qui m'a amené là à travailler plus sur la désinformation. Donc, ce n'était plus le but de donner des outils aux nutritionnistes pour créer la meilleure plateforme, mais plutôt d'aider les gens à mieux naviguer à travers ces outils-là, puis peut-être se diriger davantage vers des plateformes qui seraient plus crédibles, comme par exemple celle des nutritionnistes ou des chercheurs en nutrition.
Super. Donc, votre passion pour la communication et les transferts de connaissances est très claire, vraiment inspirante. Maintenant que nous connaissons un peu mieux de votre parcours, on va plonger dans le vif du sujet. La désinformation en nutrition est un phénomène complexe qui est devenu encore plus répandu avec l'essor des réseaux sociaux. On entend souvent parler de désinformation et de malinformation, mais les termes peuvent prêter à confusion. Je sais qu'en anglais, par exemple, on a trois termes. On dit misinformation, disinformation et malinformation, mais j'ai remarqué qu'en français, il y a deux. Vous pouvez me corriger. Mais pouvez-vous expliquer un peu la différence entre certains de ces termes?
Oui, en fait, c'est un domaine qui est, ça fait longtemps que le terme désinformation existe. Donc, semble-t-il que ce soit depuis les années 1500. Donc, ça fait quand même un certain temps. Mais vous avez raison de dire qu'on en entend de plus en plus parler depuis les dernières années. Donc, il y a différentes définitions, mais généralement, comme par exemple le Centre canadien sur la cybersécurité, va proposer trois types de diffusion d'informations qui peuvent causer des préjudices. Donc, le premier, c'est la mésinformation. La définition, c'est que ce serait de fausses informations qui seraient diffusées, mais sans mauvaise intention. Donc, la personne diffuse une mauvaise information sans savoir que ce n'est pas la bonne information. Donc, peut-être par un manque de connaissances, un manque d'éducation sur un sujet en particulier. La désinformation, ce serait une fausse information qui est propagée, mais dans le but de tromper ou de manipuler quelqu'un. Donc, on partage une fausse information, mais on sait que ce n'est pas une bonne information. Et finalement, la malinformation, ce serait une information qui est factuelle, donc une bonne information, mais les définitions ne s'entendent pas toujours sur ce thème-là. Donc, soit que la bonne information est exagérée, donc de manière à tromper ou causer préjudice, ou elle est utilisée dans un mauvais contexte. Donc, généralement, on voit beaucoup en anglais « misinformation », qui est peut-être le terme qui est le plus souvent utilisé, parce qu'il semblerait que la définition qu'on utilise en anglais, c'est une fausse information avec ou sans mauvaise intention. Donc, ça en fait un terme qui est plus global. En français, on va utiliser peut-être plus souvent la désinformation pour parler de tous ces termes-là. Puis c'est encore, en fait, c'est un sujet d'étude, les termes pour parler de ce phénomène. Il y a une récente scoping review, donc un examen de la portée en français qui a été effectué, publié en 2023, où ils ont répertorié dans plusieurs études tous les termes qui étaient en lien avec la désinformation et ils ont répertorié aussi les définitions qui étaient données de ces différents termes-là. Donc, ce qu'ils ont conclu, c'est qu'il y a encore des incohérences dans les définitions qui sont données pour chacun de ces termes, mais que globalement, on s'entend pour dire que c'est une information qui est fausse. Et c'est très difficile, en fait, de savoir est-ce que l'intention était bonne ou non. Donc, habituellement, on va dire tout simplement c'est une information là, qui est fausse. Donc, on parle, comme je disais tout à l'heure, si on fait un petit récapitulatif, en anglais, on parle beaucoup de misinformation. En français, on va utiliser la plupart du temps, des informations. Mais on parle toujours de fausses nouvelles avec ou sans intention là, de causer préjudice. Là.
Super, merci pour la clarification, désolée pour mon français. Dans mes lectures sur ce sujet, je suis aussi tombée sur le terme infodémiologie. Je n'en avais jamais entendu parler. Pouvez-vous aussi nous expliquer un peu ce que c'est et peut-être dans le contexte de la nutrition?
Mm-hmm. Oui, en fait, l'infodémiologie, c'est un peu comme l'épidémiologie de la désinformation. Donc, en ce sens que c'est l'étude des déterminants puis de la distribution de l'information, de la mésinformation et de la désinformation. On en entend davantage parler depuis la pandémie de COVID-19 de l'infodémiologie, mais c'est quand même un terme qui a émergé là, au début des années 2000-2002, si je ne me trompe pas, par un chercheur qui s'appelle Gunter Eisenbach, donc qui est quand même un pionnier là, dans le domaine de l'infodémiologie. C'est d'ailleurs grâce à cette science-là qu'on peut maintenant mieux distinguer les différents termes dont nous avons parlé là, à la question précédente. Dans le domaine de la nutrition, ça peut permettre de comprendre les effets de la surabondance d'informations et de désinformations. Ça nous permet de comprendre, par exemple, d'où viennent les informations trompeuses, donc sur quelle plateforme elles circulent. Est-ce qu'il y a des comptes, des types de comptes sur les plateformes sociomédiatiques qui seraient plus susceptibles de partager ce type d'informations-là? Donc, c'est vraiment une étude de l'information qui circule et des déterminants de ce phénomène-là. Donc, peut s'appliquer à n'importe quel domaine là, en santé, incluant la nutrition. Donc, il n'y a pas tant d'études qui parle d'infodémiologie et de nutrition, mais je suis convaincue là, que ça va se développer dans les prochaines années.
Oui, et vous parlez sur une surabondance d'informations, mais parfois contradictoires. On sait que, par exemple, la pandémie de COVID-19 a non seulement bouleversé nos vies, mais elle a aussi déclenché une véritable infodémie. Donc, dans le cadre de certaines de vos recherches, quels étaient les types d'informations erronées le plus répandues en matière de nutrition? Et quel était leur impact sur les perceptions et les comportements du public?
On a fait une étude au début des années, en fait, autour de 2020, là, pendant la pandémie, avec une de mes étudiantes à la maîtrise. Elle a effectué un projet dans lequel elle a évalué l'exactitude des informations qui étaient véhiculées sur la plateforme socio-médiatique Twitter, à l'époque, maintenant X, qui portait donc à étudier des publications qui portaient sur la nutrition et la COVID-19, donc lors de la première vague et lors de la deuxième vague de la pandémie. Puis elle a notamment comparé, par exemple, des publications qui provenaient de nutritionnistes versus des publications qui provenaient de personnes qui n'étaient pas formées en nutrition. Puis le type d'information le plus erroné, c'était dans des tweets qui portaient sur, par exemple, le lien entre la santé immunitaire, la COVID et la nutrition. Donc, ce qu'on voyait souvent, c'est qu'on parlait de stratégie nutritionnelle pour booster ou pour surstimuler le système immunitaire, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose d'avoir un système immunitaire qui est surstimulé. Donc, alors qu'on aurait dû parler peut-être de comment mieux soutenir, par exemple, notre système immunitaire. Donc, on a vu beaucoup de publications à ce niveau-là. On a vu aussi beaucoup de publications qui étaient erronées en lien avec la perte de poids. Donc, on a entendu beaucoup de variations pondérales, au niveau de la variation pondérale pendant la COVID-19 pour tout plein de raisons. Donc, il y avait beaucoup d'informations qui étaient erronées à ce sujet-là. Et aussi, on a vu beaucoup de publications sur des aliments spécifiques qui étaient reliés à la COVID-19. Donc, soit des publications qui disaient de consommer une quantité abondante d'un aliment pour prévenir la COVID-19, alors qu'il n'y avait pas d'évidence scientifique par rapport à ça. Donc, si on se souvient tout à l'heure, quand on parlait des différents termes, peut-être qu'on pourrait relier ça à la malinformation, c'est-à-dire c'est une information correcte, par exemple, de dire que, je donne un exemple, comme ça au hasard, que le chou kale, c'est un bon aliment avec des vitamines, des minéraux et tout ça, mais de dire que cet aliment-là, d'en exagérer les effets positifs ou les effets sur, par exemple, la COVID ou le fait de prévenir une maladie, ben là, ce serait une fausse information à ce moment-là. Donc, on a trouvé là, ces trois éléments-là qui semblaient être les plus fréquemment discutés dans des publications Twitter. Donc, la santé immunitaire, la perte de poids et aussi différents aliments spécifiques. La COVID-19, c'était vraiment un bon exemple. C'était une situation malheureuse, mais c'était un bon exemple pour étudier une infodémie. Et ça l'a démontré, en fait, que l'infosphère, donc les endroits où on recherche, où on trouve nos informations, où nous naviguons, donc ça peut avoir vraiment un impact quand même important là, sur des fausses croyances qu'on pourrait développer, qui peuvent avoir des conséquences négatives là, éventuellement sur soit l'adoption d'habitudes alimentaires ou d'habitudes de vie qui seraient plus malsaines, qui pourraient avoir un impact négatif sur la santé physique ou la santé mentale aussi. Donc, ce fut là, quand même une étude intéressante à faire et pour se rendre compte que l'infodémie au niveau de la COVID-19, c'était pas seulement pour ce qui était relié, par exemple, à la vaccination ou d'autres éléments liés avec la santé, mais beaucoup sur la nutrition aussi.
Oui, c'était quelque chose. Et vous parlez de vos publications et je vais aussi parler un peu de notre étude que vous avez faite. Vous avez mené une enquête auprès de 800 étudiants de l'Université Laval sur leur utilisation des médias sociaux pour obtenir des informations sur des facteurs liés au mode de vie comme l'activité physique, le stress et le sommeil. Est-ce que vous pouvez parler un peu de cette étude et peut-être les résultats les plus surprenants dans cette enquête?
Oui, c'est une enquête vraiment intéressante qu'on a fait là, dans les dernières années. On est en train d'analyser les résultats, donc je ne pourrais pas présenter tous les résultats présentement. On a terminé le recrutement, là, comme vous avez dit, avec environ 850 étudiants qui ont répondu à nos questionnaires. Puis le but, c'était vraiment de comprendre quels étaient les comportements de recherche d'informations sur les médias sociaux en lien avec les habitudes de vie des étudiants. Donc, autant où est-ce qu'ils cherchaient l'information, quel genre d'information ils cherchaient, comment ils cherchaient l'information. Donc, on avait plusieurs questions. Et ce que je peux dire des résultats jusqu'à maintenant, c'est que, par exemple, plus de 70 % des étudiants qui ont répondu au questionnaire recherchaient de l'information sur les médias sociaux en lien avec la nutrition. Qu'environ 60 % des étudiants recherchaient aussi de l'information en lien avec l'activité physique. C'est un petit peu plus faible là, pour ce qui est du sommeil et aussi du stress, qui étaient deux autres habitudes de vie qu'on recherchait, en fait, sur lesquelles on questionnait les étudiants. On constatait aussi que pour ce qui est des endroits ou en fait des types de comptes où les étudiants allaient rechercher leurs informations, la première catégorie, disons, d'auteurs ou de personnes auprès desquelles on cherchait de l'information en nutrition, c'était les influenceurs qui n'ont pas de formation en nutrition ou en santé. Heureusement, pas très loin derrière, on avait les professionnels de la santé comme les nutritionnistes là, auprès desquels on allait chercher de l'information. Puis on aura aussi été voir les raisons pour lesquelles les étudiants recherchaient des informations en nutrition sur les médias sociaux. Et là, il y avait différentes raisons qui étaient mentionnées. Les plus fréquentes étaient, par exemple, de vraiment rechercher des recettes, avoir des idées pour des repas ou des façons de cuisiner. On avait aussi une autre raison qui était très populaire, c'était tout simplement pour se divertir. Donc, les gens semblaient aller voir ce type de plateforme-là vraiment pour passer le temps, pour vraiment pour se divertir. Ensuite, il y avait aussi d'autres raisons plus reliées à la santé, comme par exemple la perte de poids, le gain de poids étaient aussi des raisons pour lesquelles les étudiants recherchaient de l'information en nutrition. Puis il y avait aussi le gain de masse musculaire, qu'on a pu là, identifier comme une raison là, qui intéressait les étudiants pour aller chercher ce type d'information-là. On a eu aussi un questionnaire qui était rempli sur l'image corporelle. On est présentement en train d'analyser ces résultats-là pour savoir est-ce que le fait d'avoir une bonne ou une moins bonne image corporelle, est-ce que ça a un lien avec le temps ou en fait le type d'information qu'on recherche sur les médias sociaux. Donc, ce sera très intéressant là, d'avoir les résultats dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, qu'on réalise en analysant nos résultats présentement, c'est que les étudiants consomment beaucoup d'informations en lien avec la santé sur les médias sociaux. Donc, on aura sûrement là, des idées d'intervention à effectuer auprès d'eux là, pour s'assurer qu'ils ont accès à des informations, qu'ils sont capables, qu'ils ont la capacité d'analyser les informations qu'ils retrouvent sur les médias sociaux pour ensuite les appliquer de façon sécuritaire, en fait, là, dans leur vie, dans leur santé.
Oui, mais ce n'est pas publié, cette étude, juste pour confirmer.
Ce n'est pas publié encore, non, c'est ça, mais ça viendra dans les prochains mois, là, sûrement.
Ah, parfait. Et comment pensez-vous que l'utilisation des médias sociaux par les étudiants influence leur choix de vie, en particulier en termes de santé et de bien-être? Par exemple, quelles sont les caractéristiques d'un temps écran équilibre?
Oui, dans notre étude, on n'a pas évalué l'impact que ça pouvait avoir sur la santé. Je vous ai parlé de l'image corporelle, donc on peut faire des corrélations, mais ce n'est pas nécessairement une relation là, de cause à effet. Par contre, on a vu que les étudiants passaient quand même beaucoup de temps sur les médias sociaux dans une journée. Donc, on avait une moyenne, si je ne me trompe pas, autour de 2 heures et demie par jour sur les médias sociaux. Bien sûr, ils ne passaient pas ce temps-là entièrement à rechercher de l'information sur les habitudes de vie, mais ça fait quand même en sorte que quand on considère la vie ou l'horaire chargé des étudiants, donc qui ont des cours, qui vont à l'école, qui peut-être ont des travaux, ont de l'étude à faire, peut-être un emploi à l'extérieur, des loisirs, du sport, donc de passer en moyenne deux heures et demie par jour sur les médias sociaux, c'est quand même significatif dans la vie là, d'un individu. Donc, on peut suspecter que ça va avoir un impact sur l'adoption d'habitudes de vie. Quand on parle de temps d'écran équilibré, donc par exemple au Québec, on a une stratégie québécoise sur l'utilisation des écrans sur la santé des jeunes et dans laquelle on peut voir différentes orientations pour favoriser une utilisation équilibrée des écrans. Donc quand on parle d'une utilisation équilibrée des écrans, on fait référence à une approche qui est assez multidimensionnelle, donc qui vise à maximiser les bénéfices de l'utilisation des écrans et aussi en minimisant les risques associés à une surutilisation là, de différents dispositifs numériques comme par exemple les tablettes, les téléphones, les ordinateurs, les consoles de jeux. Et cette utilisation-là équilibrée, donc comme je disais, c'est un concept qui est multidimensionnel. Donc on ne parle pas seulement de la fréquence et de la durée du temps d'écran, ce qu'on voit peut-être plus souvent ou ce qu'on associe peut-être plus souvent avec une utilisation équilibrée des écrans, donc le temps qu'on passe devant l'écran, mais on a aussi le contexte d'utilisation, le type d'appareil qu'on peut utiliser, la nature de l'utilisation, donc pourquoi on l'utilise, mais aussi le contenu de l'utilisation. Donc, ce qui nous intéresse dans nos projets de recherche, c'est beaucoup d'aller voir le contenu des informations, où il se retrouve beaucoup d'informations, et donc les gens, plus ils regardent, ou plus ils consultent des médias sociaux, donc ce qui est relié au temps d'écran, plus on consulte des médias sociaux, plus on est exposé à beaucoup d'informations et plus le risque de tomber sur de la désinformation est augmenté. Donc, une utilisation équilibrée des écrans, ça englobe en fait différentes dimensions. Et oui, on peut regarder le temps d'écran, donc essayer de diminuer notre temps d'écran, mais de regarder le contenu aussi, de s'attarder au contenu pour s'assurer que notre infosphère ne mènera pas à des conséquences négatives. C'est aussi une dimension qui est très, très importante là, à regarder. Donc, tout ça en lien avec l'étude de la désinformation là, sur les médias sociaux là, qui semble être un sujet vraiment très important sur lequel s'attarder.
Oui, on a parlé beaucoup des étudiants, mais j'aimerais aussi parler des nutritionnistes et des diététistes. Et, on sait que la diffusion de fausses informations en ligne a des répercussions non seulement sur le grand public, les étudiants, mais aussi sur les professionnels de la santé, notamment les diététistes. Et vous êtes diététiste aussi, donc dans votre expérience, comment cette propagation de désinformation a-t-elle affecté les pratiques des nutritionnistes? Est-ce qu'il y a des exemples spécifiques que vous avez rencontrés?
Je dirais que cette diffusion de fausses informations puis la désinformation, ça là, essentiellement, c'est un défi de plus pour les nutritionnistes parce que ça peut avoir un impact sur la prise de décision clinique lorsqu'on rencontre des patients, des clients, par exemple. Donc, dans le domaine de la santé, incluant la nutrition, ça peut affecter la décision clinique si une ou l'autre des parties, donc soit le nutritionniste ou le patient, arrive avec des informations, de mauvaises informations. Donc, ça peut complexifier, en fait, la relation le patient-nutritionniste. Donc, si un patient, par exemple, a été exposé à de la désinformation en nutrition, les conséquences possibles vont dépendre, en fait, souvent de sa littératie numérique en santé. Donc, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais la littératie numérique en santé, c'est défini en fait comme la capacité d'un individu de rechercher, comprendre et aussi appliquer ou utiliser des informations qui proviennent de sources électroniques, donc de médias numériques, pour aborder ou résoudre un problème de santé. Donc, le fait d'avoir une bonne ou une moins bonne littératie numérique en santé, ça peut avoir un impact sur la compréhension, par exemple, qu'on va faire de l'information qui est partagée sur les sources électroniques. Et donc, quand on rencontre un nutritionniste, on comprend que le patient peut arriver avec différents niveaux de littératie. Puis cette littératie numérique en santé, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elle englobe plusieurs types de littératie. Donc, par exemple, la littératie traditionnelle, donc de comprendre ou non des textes, mais ça peut être aussi en lien avec la littératie scientifique, donc d'être capable de comprendre des données scientifiques, parce que souvent, on va parler de nutrition en raison de nouvelles études qui ont été publiées, etc. Donc, est-ce que les gens sont capables de comprendre ces termes-là plus scientifiques? On parle évidemment de littératie numérique, parce que est-ce que les patients sont capables de bien utiliser les plateformes numériques. On parle de littératie en santé parce qu'ils doivent comprendre les différentes informations en santé. Donc, ça fait plusieurs éléments qui font en sorte que oui, ça se peut que les gens soient susceptibles de croire à la désinformation en santé. Puis avec un nutritionniste, bien, peut-être qu'on doit rectifier certains faits en lien avec cette littératie-là pour s'assurer que le patient ou le client comprennent bien, en fait, là, les informations auxquelles il va avoir accès sur les différents médias numériques. Donc, il y a peut-être beaucoup de discussions à avoir avec des patients, des clients qui arrivent avec des informations qui nous semblent fausses. Puis, il faut essayer de voir d'où ça vient. Donc, est-ce que c'est une mauvaise compréhension, par exemple, au niveau de la science? Est-ce que c'est une mauvaise compréhension au niveau tout simplement de la façon de diffuser de l'information? Donc, il y a plusieurs éléments ou une difficulté à comprendre les informations en santé de base. Donc, il y a plusieurs là, éléments qu'on doit essayer de cibler là, pour s'assurer qu'on puisse rectifier les faits. Mais aussi que le patient ressorte plus mieux équipé, qu'il ait de meilleures capacités, de meilleures compétences là, par la suite. Donc, ça peut demander, en fait, beaucoup d'énergie des nutritionnistes, parce qu'on ne peut pas tout simplement dire, bien, l'information que vous venez de me présenter n'est pas bonne, donc il faut essayer de comprendre d'où ça vient et de faire en sorte que les personnes sont mieux équipées là, par la suite pour mieux comprendre les informations qu'on retrouve sur les médias sociaux. Oui, allez-y.
Non, allez-y, c'est intéressant.
Oui, bien, en fait, vous parliez, vous me demandiez s'il y avait des exemples peut-être plus précis. C'est quand il peut y avoir là, bon, plusieurs exemples, mais souvent, ce qu'on peut voir, ce sont des mythes qui sont à déconstruire. Donc, les gens qui arrivent avec de fausses croyances, de fausses informations. Donc, on doit déconstruire les mythes en essayant toujours de conserver ou de bien développer un lien de confiance avec les patients. Donc, pas seulement dire que le patient vient avec des informations qui ne sont pas, qui sont erronées, qui ne sont pas adéquates. Donc, il faut quand même créer le lien de confiance puis avoir une bonne discussion pour démystifier, par exemple, certaines fausses croyances. Mais ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est que dans les médias sociaux, puisque tout le monde mange, donc tout le monde se donne le droit, disons, de parler de nutrition. Évidemment, on a toute notre expérience avec l'alimentation. Par contre, parfois, les gens qui vont être susceptibles à la désinformation vont vouloir appliquer des façons de faire, donc des modes d'alimentation qu'ils vont avoir vus sur les médias sociaux, parce que la personne qui va les présenter pourrait dire « ben moi, je mange de telle façon, puis j'ai eu tel bénéfice sur ma santé ». Mais ça ne veut pas dire que ça s'applique nécessairement aux patients, aux clients que vous avez devant vous. Donc, ça aussi, ce sont des choses qu'on voit en clinique où les nutritionnistes vont vouloir vraiment adapter le plan de traitement, en fait, aux différentes caractéristiques de l'individu, ce qu'on n'a pas en regardant sur les médias sociaux, où on a seulement une personne avec ses caractéristiques qui va nous dire, ben moi, je fais telle intervention, je suis tel type d'alimentation et je me porte bien, ou j'ai essayé tel type d'alimentation, puis ça n'a pas fonctionné du tout, mais c'est vraiment du cas par cas, c'est anecdotique. Et parfois, on peut être susceptible à vouloir essayer ces différentes interventions-là, alors que peut-être que ça ne nous convient pas parce qu'on a différentes caractéristiques. Donc, c'est des choses qu'on peut voir aussi là, en clinique, en lien avec l'information qu'on retrouve sur les médias sociaux.
Oui, et avec beaucoup d'informations disponibles en ligne et souvent non filtrées, comment les individus peuvent-ils évaluer efficacement la crédibilité des conseils nutritionnels qu'ils rencontrent sur les médias sociaux?
On parlait tout à l'heure de littératie numérique en santé. Donc, idéalement, on développerait des compétences pour être capable de mieux discerner la crédibilité, en fait, des sources d'information en santé sur les médias sociaux pour être mieux équipé, pour mieux naviguer dans cet environnement-là complexe, numérique en santé et en nutrition. Donc, ce serait ultimement là, la clé pour mieux prendre des décisions mieux éclairées, donc de se former, d'aller chercher des compétences. Par contre, il y a quand même des critères d'évaluation qui sont relativement simples, qu'on peut appliquer et qui peuvent nous aider là, à discerner l'information fausse de l'information qui est plus crédible. Donc, par exemple, c'est quoi notre source d'information? Est-ce que c'est une source d'information qui est fiable? On pense, par exemple, des sources d'information fiables pourraient être des sites gouvernementaux, des organisations de santé reconnues, des sociétés savantes. On peut s'interroger aussi sur les auteurs de la publication. Donc, est-ce que les auteurs ont les compétences nécessaires pour parler du sujet? Donc, est-ce qu'ils ont une formation quelconque en nutrition, si on parle de ce domaine-là en particulier? On peut se demander aussi, est-ce que les auteurs citent leurs sources? Donc, est-ce que ces sources-là sont crédibles et reconnues? Donc, quand on pense au premier critère qui était de regarder notre source, s'il y a des sources qui sont citées, on peut se demander est-ce que ces sources-là sont crédibles? Et peut-être un dernier critère, ça pourrait être, est-ce qu'il y a un ton ou des messages qui sont sensationnalistes sur les publications qu'on regarde? Est-ce que l'auteur, par exemple, a un produit à vendre qui semble miraculeux? Ça peut être des éléments là, qui nous des drapeaux rouges hein, qui nous font penser que peut-être que l'information qui est divulguée n'est pas nécessairement crédible sur ces plateformes. Donc, quelques petits critères, en fait, qui peuvent nous aider là, dans un premier temps là, à mieux cibler l'information crédible versus non crédible.
Donc, excellent. Et pour terminer cette discussion, j'aimerais aborder le thème des solutions. Mm-hmm. On finit nos podcasts toujours avec les key takeaways, les solutions. Donc, quelles sont les stratégies efficaces pour lutter contre la désinformation nutritionnelle qui se propage sur les médias sociaux? Que pouvons-nous faire? Et aussi, peut-être, si vous avez les ressources, par exemple, il y a des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a les réseaux sociaux ou des pages que vous suivez ou vous recommandez, par exemple? Beaucoup de questions dans une question.
Je vais y aller en deux temps. Donc, dans un premier temps, des stratégies efficaces pour lutter contre la désinformation. J'irais peut-être au niveau de la recherche. Donc, qu'est-ce qui peut être fait? J'ai vu un modèle là, qui était quand même très intéressant sur comment contrer, en fait, l'infodémie ou la désinformation là, qu'on retrouve en raison de la surabondance d'informations. Puis on peut cibler différents éléments dans le domaine de la recherche pour essayer de mieux contrer cette désinformation-là. Donc, premièrement, on en a parlé quand même beaucoup, donc de soutenir la littératie numérique en santé, donc d'essayer de créer ou de rendre accessibles des formations pour les gens dans différents secteurs, que ce soit les jeunes, les adultes, les personnes plus âgées, donc d'essayer de les rejoindre pour améliorer cette littératie-là, pour les rendre plus, pour qu'on soit plus autonome, pour bien évaluer en fait les informations qu'on retrouve sur les médias sociaux. Donc, soutenir la littératie. Ensuite, on peut penser à faire de l'infosurveillance. Donc, l'infosurveillance, ça veut dire de documenter les types d'informations qui circulent et d'où elles proviennent. Donc, si on a des groupes de recherche, par exemple, qui font de l'infosurveillance sur l'alimentation et des types d'informations qui pourraient émerger, disons, dans la plateforme, dans différentes plateformes socio-médiatiques, ça pourrait nous permettre d'identifier, ben, OK, là, il y a un sujet qui semble prendre beaucoup d'ampleur et ça semble pas être des informations nécessairement crédibles. Donc, là, on peut voir d'où ça vient pour rectifier le tir, par exemple. Donc, faire de l'infosurveillance. Il y a aussi des mécanismes de vérification des faits. Donc, on voit beaucoup ça plus dans le domaine médiatique. Donc, mais s'assurer d'avoir des outils, des ressources de vérification des faits qui vont peut-être avertir la population quand ils voient une information là, qui semble erronée, là, qui circule beaucoup dans les médias sociaux. Puis assurer aussi un bon transfert de connaissances parce que les informations qu'on trouve sur les médias sociaux vont circuler beaucoup plus rapidement que, par exemple, lorsqu'on publie des articles scientifiques comme chercheur. Donc, quand je dis d'assurer un meilleur transfert de connaissances, bien peut-être d'avoir des chercheurs qui font ce transfert-là auprès de la population. Donc, il y a des chercheurs qui sont plus actifs sur les médias sociaux, par exemple, qui pourraient peut-être aider à la désinformation en discutant, disons, de nouveaux articles scientifiques qui peuvent apparaître pour faire en sorte qu'ils sont diffusés là, de manière adéquate auprès de la population. Puis, dans un deuxième temps, je ne sais pas si c'est correct de continuer avec votre question, si il y avait des initiatives intéressantes. J'en ai quelques-unes qui sont quand même assez récentes. La première, c'est l'initiative qui s'appelle La Science d'abord, qui est une initiative qui est formée de chercheurs, de professionnels de la santé aussi, puis de spécialistes de l'information qui travaillent. En fait, ça a été démarré là, pour enrayer la désinformation en lien avec la COVID-19, mais maintenant, ils s'intéressent à des sujets en lien avec la santé, là, autre que la COVID-19. Donc, ils informent la population là, quand il y a des sujets de désinformation qui apparaissent sur les plateformes numériques. Ensuite, il y a aussi un autre outil, en fait, c'est le Centre canadien de littératie en médias numériques qui a cette plateforme-là qui s'appelle Abilo Media, qui propose des ressources pour donner aux gens là, des moyens d'interagir avec confiance sur les médias sociaux, sur les différentes formes de médias. Puis il y a aussi le détecteur de rumeurs de l'agence Presse Science Presse, qui est une initiative de vérification des faits. Donc, j'en parlais tout à l'heure que ça pouvait être une stratégie intéressante là, pour contrer la désinformation. Donc, qui évalue, par exemple, des affirmations qui sont douteuses, non crédibles, des rumeurs aussi. Et donc, qui partage ces informations-là avec le public. Puis la dernière dont j'aimerais parler, c'est Science Influence. Donc, c'est une initiative de 3 professionnels de la santé, dont une nutritionniste, qui vise à sensibiliser les gens qui font de la création de contenu, donc les influenceurs, afin qu'ils soient plus conscients, en fait, de leur impact quand ils ont des discours en lien avec la santé. Donc, leur but, c'est beaucoup de former les gens qui créent du contenu pour faire en sorte que lorsqu'ils présentent des informations sur la santé, que ce soit des informations qui soient plus crédibles. Donc, ils ont une formation aussi là, qu'ils offrent par rapport à ça. Puis évidemment, mais de suivre des comptes peut-être de nutritionnistes ou de chercheurs dans le domaine de la nutrition là, qui sont plus actifs sur les médias sociaux, ça peut nous aider aussi à avoir des informations intéressantes là, qui pourraient nous aider à contrer la désinformation.
Super, c'est des bonnes stratégies et vous avez donné beaucoup d'excellentes ressources pour nos auditeurs. Donc, merci beaucoup, Sophie, pour cette discussion enrichissante sur les défis de la désinformation en nutrition et l'importance de bien évaluer les sources d'information et aussi de me donner l'opportunité de pratiquer mon français avec vous. J'espère que nous pourrons continuer à lutter contre la désinformation et j'attends avec impatience de voir la suite de vos recherches. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Chérine, et merci beaucoup à la Société canadienne de nutrition de m'avoir invitée à ce balado.
Thank you for tuning in to this episode of Nutrition Conversations. We hope that you found today's discussion informative and inspiring. If you're interested in hearing more about the latest research in nutrition and health, be sure to check out our website at cns-scn.ca/podcast for upcoming episodes. You can find us on various platforms, including Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, and more. Simply search for the Nutrition Conversations podcast on your favorite app, and you'll have access to all our episodes in one place. We release new episodes at the end of each month, so mark your calendars and stay tuned for upcoming episodes. Don't forget to subscribe to the podcast so you never miss an episode.